Nouvelle semaine de Par les temps qui courent, bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver une heure tous les soirs de conversation avec les artistes. Ce soir, le réalisateur Nicolas Parisot.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es
ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Nicolas Pariser.
Un homme est assis derrière un bureau, son grand bureau de maire de grande ville française. Il reçoit une jeune femme tout juste recrutée pour l'aider, je cite, à prendre du recul. Il lui explique cliniquement qu'il est comme une voiture de course avec un moteur très puissant mais en panne sèche. Que le moteur tourne à vide, l'inertie permet de rendre cela invisible mais ça va finir par être gênant. Voilà, constate-t-il, presque 20 ans qu'il ne pense plus, il faut le faire penser. Tâche difficile quand le maire lui-même suppose que c'est l'action politique qui l'a vidé. Alors une autre tâche délicate se présente à vous, cette fois Nicolas Pariser, qui prenait cette situation comme point de départ de votre nouveau film Alice et le maire. Il faut trouver une manière de filmer la pensée. Filmer des idées en train de naître, une forme d'amitié en train de naître aussi, et tout à fait nourrie par elle, les idées et la parole. Une manière de filmer l'intelligence qui tient peut-être dans ce sourire curieux et calme qu'arbore souvent Anaïs de Moustier, la comédienne formant le duo avec Fabrice Lucchini. Bonsoir à vous, Nicolas Pariser.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, votre film est en salle ce mercredi, il s'appelle donc Alice et le maire. Vous racontez souvent que quand vous travaillez à un film, ou quand du temps passe et qu'un film est à l'horizon, plusieurs pistes de films sont en même temps dans votre tête et qu'il faut qu'elles entrent en collision et que finalement ça n'en forme plus qu'une seule. Est-ce que vous vous souvenez des pistes de films qui étaient comme ça, en ébauche, quand Alice et le maire étaient encore loin ?
Alors j'avais plein de petits bouts de films, c'est-à-dire je prends des notes comme ça et en espérant à chaque fois que j'aurai une idée géniale qui me permettra d'écrire le scénario très vite. Et en fait assez rapidement je m'aperçois que les idées sont valables pour un bout de film, mais jamais pour un film en entier, enfin pour l'instant en tout cas. Et donc j'avais une idée de film, c'est une espèce de roman d'apprentissage avec un jeune garçon qui à un moment donné se retrouvait à travailler pour un président de région dont le modèle était un peu Georges Frêche. Et puis il suivait ce président de région comme ça à Paris, à Montpellier, enfin voilà. Et puis j'avais une autre idée de film sur une jeune femme de 30 ans. Qui n'arrivait pas à savoir ce qu'elle voulait vraiment faire dans la vie et qui essayait plein de choses. Alors elle faisait du théâtre, elle voulait être militante politique, elle faisait aussi du yoga, enfin voilà. Donc et puis à un moment donné je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe si je mélange les deux films? Et en fait, pour être honnête, c'est à un moment donné j'ai eu envie de faire un film pour Fabrice Lucchini. Et donc j'ai à la fois mélangé les deux films et j'ai mélangé ces deux films à l'idée de Fabrice Lucchini. Et comme Fabrice Lucchini pouvait absolument pas jouer le rôle d'un président de région, enfin à mon sens, à la Georges Frêche, c'est-à-dire quelqu'un de très excessif. Enfin, Fabrice Lucchini peut jouer beaucoup de choses, mais un ogre. Voilà, je pense que c'était pas forcément son emploi idéal. Et puis j'aime bien
ou votre désir de son emploi, on en reviendra.
Oui, ou son désir de son emploi. Disons que moi je suis assez peu intéressé par les contre-emplois. J'aime bien trouver l'emploi parfait ou bien décaler un petit peu les choses, mais les contre-emplois complets, ça me, enfin par exemple, je sais pas, Tchao Pantin, je trouve ça très ennuyeux, le contre-emploi de Coluche par exemple, enfin c'est l'exemple type du contre-emploi. Et donc voilà, donc en mélangeant tout ça, je me suis retrouvé avec non plus avec un président de région mais avec un maire que j'ai tiré plutôt vers Bertrand Delanoë. Donc on voit que de Georges Frêche à Bertrand Delanoë, il y a quand même un chemin assez grand. Et puis au bout d'un moment, l'idée quand même que j'avais envie que le personnage principal de mon film soit la jeune femme et pas le maire, que j'avais plutôt envie de faire un film sur une jeune femme que sur un homme de 60 ans.
Voilà. Pourquoi ?
Peut-être parce que j'avais fait mon premier film avec Melville Poupeau, que c'était donc un film dont le protagoniste principal était un homme de 40 ans, que s'il y avait des aspects dans le film qui étaient, disons, lointainement autobiographiques, mais quand même autobiographiques, et que ça me permettait de changer de registre tout en gardant quand même le film va bientôt sortir, en gardant un peu la même structure, mais disons les deux films sont fondés sur commencent par la rencontre d'une jeune personne et de quelqu'un de plus mûr, disons.
Vous avez dit il fallait mélanger tout ça avec l'idée de Fabrice Lucchini. Il va être beaucoup question d'idées dans cette conversation, oui. Nicolas Parizeur, puisque c'est l'un des enjeux de ce film à tout point de vue, d'un point de vue cinématographique, du point de vue de la pensée, évidemment, du point de vue, je pense, aussi de la direction d'acteur, on appellera ça comme on voudra, ou de leur jeu de comédien. C'est quoi l'idée de Fabrice Lucchini ? Ça tient en combien de phrases ?
Ça, je saurais pas bien vous répondre. C'est-à-dire que moi, disons, l'idée qui m'intéressait, c'était de faire un film autour d'une star en réalité, et moi je suis très cinéphile et j'aime beaucoup ce qu'on appelle les véhicules, c'est-à-dire les véhicules, ce sont des films, des projets qui sont fondés autour d'un grand acteur. Alors ça peut être Bette Davis, ça peut être John Wayne, ça peut être Jean Gabin. C'est un genre, en tout cas. Je sais pas si on peut dire que c'est un genre, mais enfin disons, c'est une démarche a priori industrielle qui m'intéresse énormément et qui résume pour moi assez bien ce que peut être le cinéma. On dit c'est à la fois un art et une industrie. Bah voilà, les véhicules pour stars, c'est indéniablement de l'industrie, mais c'est de l'industrie qui est fondée sur un talent artistique qui est celui du comédien, et puis si possible sur le talent de ceux qui font le film. Donc voilà, moi faire un film autour avec Fabrice Lucchini comme Rio Bravo, c'est un film de Howard Hawks, Rio Bravo, mais enfin pour le grand public et pour les gens qui ont produit le film, c'était avant tout un film avec John Wayne. D'ailleurs, je pense que pendant très longtemps, on disait un film de De Funès, un film, d'ailleurs, qui sait, qui savait à l'époque de Brigitte Bardot, qui réalisait les films avec Brigitte Bardot, vraiment peu de monde. Donc voilà, ça m'intéressait de me fondre dans le rôle du scénariste et du metteur en scène qui se mettait au service d'une star, sachant, à nouveau, c'est pas si modeste, que un bon pourcentage des chefs-d'œuvre du cinéma sont des véhicules pour vedettes, en tout cas du cinéma français ou du cinéma américain. Donc l'idée de Fabrice Lucchini ensuite.
Ensuite, il y a un super virage, puisqu'après vous dites, au final, c'est le film d'Anaïs de Moustier. C'est très drôle. Il y a plein de moments, et on y viendra peut-être à la toute fin de cet entretien, où si on parle de star, elle lui pique la vedette.
Mais ça arrive souvent, je pense. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens dans Rio Bravo, ils vont retenir plutôt Dean Martin, par exemple, ou je sais pas. Enfin, c'est quelque chose de. Le film avec vedette, en réalité, permet énormément de choses, y compris qu'à un moment donné, la vedette soit volée à la vedette de départ.
Ce qui n'enlève rien, peut-être, à la vedette de départ.
Ah bah au contraire. Enfin, je pense qu'effectivement, qu'à un moment donné, il y ait un une circulation de la starification, ou en tout cas une circulation de qui est le centre du film, ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Et évidemment, en sachant que la star du film avait un rôle non pas secondaire, mais n'était absolument pas le personnage principal du film, oui, il y avait quelque chose aussi que je trouvais excitant dans ce voilà, mais là c'est un peu, je sais pas, comme dans Le Parrain, Marlon Brando a un rôle secondaire et le vrai héros du film c'est Al Pacino, et à mon sens, Al Pacino, d'une certaine manière, vole la vedette à Brando. Mais en même temps, il pourrait pas voler la vedette à Brando s'il n'y avait pas Brando. Voilà.
Vous évoquiez Georges Fraiche. Il y a un homme qui l'a filmé dans sa campagne, Yves Geland. Il a aussi filmé une campagne qui permettait de suivre comme ça la candidature à la mairie de Paris. On l'écoute en 2016.
La première chose, c'est qu'il y avait beaucoup de candidats à la candidature. Je préfère d'ailleurs, dans les élections, cette période de maintenant on appelle ça des primaires, c'est très à la mode, mais c'est les combats internes qui sont beaucoup plus violents. Je pense au combat à gauche entre Bertrand Delanoë et Jack Lang, et à droite entre Françoise de Panafieux, Jean Tiberi, Philippe Séguin, Édouard Balladur. Mais rien qu'en recitant ces noms, je me dis, mais vraiment, j'étais verni, quoi. Quelle magnifique distribution. Je pense à d'autres personnes qui étaient des seconds rôles, parfois même des premiers rôles. Je pense d'ailleurs plus à Xavier Tiberi qu'à Jean Tiberi. Je pense à Jacques Dominati, à Bernard Bled. Philippe Séguin est un personnage incroyable. Et quand je les cite, on a tendance souvent à dire, et moi, je m'inscris en faux, tous les mêmes. Derrière tous les mêmes, il y a souvent tous pourris. Moi, je le pense pas du tout. Même si on peut me reprocher parfois que mes films ne donnent pas une image très reluisante du personnel politique. J'ai plutôt de l'estime pour ces hommes et ces femmes que je filme, et ces acteurs, ces actrices, ces interprètes, acteurs et actrices. J'utilise à dessein le vocabulaire de la fiction, mais parce que je pense que dans la dramaturgie, dans la construction du montage, même si on filme le réel, parfois il y a des choses qui répondent à l'imaginaire de la fiction.
Et je l'ai en 2016 au micro de Romain de Bec de Lièvre sur France Culture. Pas mal de choses intéressantes dans ce qu'il dit, Yves Geland, mais peut-être commencer par vous faire réagir, Nicolas Pariseur, à votre propre visionnage de ce film-là, Paris à tout prix, ou du film consacré à Georges Fraiche, ou plus généralement des films consacrés à la vie politique dans ce cas-là de plus contemporaine.
Oui, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi ce qu'on reprochait à la vie politique d'être très marqué par, disons, la confrontation de personnages qui sont, en l'occurrence, pas forcément, enfin, qui sont pas des personnages de fiction au départ, mais enfin, qui le deviennent assez rapidement. Je trouve au contraire que qu'il est normal et qu'il a toujours été normal que les confrontations politiques se fasse avec des êtres de chair et de sang, et il me semble que, disons, le personnel politique aujourd'hui, même si on lui reproche d'être fade, d'être moins cultivé ou avoir moins de caractère qu'auparavant, c'est quand même une source de fiction inépuisable.
Mais vous voulez dire le reproche quand on parle de guerre d'ego, quand on parle comme ça de choses qui...
Non, mais c'est un reproche plus profond. Par exemple, je me souviens quelque chose que je trouvais absolument dingue. C'est avant les primaires socialistes en 2012, c'était qu'il fallait d'abord voter sur le projet, et que une fois qu'on avait voté sur le projet, et en gros la discussion sur le projet était la chose sérieuse, on allait discuter de qui allait porter le projet, mais que finalement la discussion sur qui allait porter le projet était anecdotique. Donc c'était à un moment donné, pour le coup, il y a une espèce de prime des idées sur
l'incarnation.
Et alors évidemment, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le projet est voté et que la personne qui doit le porter est élue, la personne qui est élue oublie complètement le projet qui a été voté avant, parce que évidemment que naturellement, les idées, elles peuvent pas être appliquées toutes seules, elles peuvent pas évoluer toutes seules, et donc après, disons qu'il y a eu un affrontement de personnes, j'ai envie de dire, on en vient aux choses sérieuses. Et je pense que voilà, le fait que les confrontations politiques se fassent entre êtres humains, donc avec des gens qui ont des affects, qui ont des névroses, qui ont parfois des moments de petitesse, des moments de grandeur, qui parfois peuvent être pris parce que ils ont eu des comportements délictuels, etc. Je trouve que pour le coup, ça fait vraiment partie de la vie.
Et du cinéma, parce que du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que fait le cinéma, qu'il soit documentaire ou fictionnel, avec tout ça.
Ben oui, dire que après le cinéma et la fiction, le roman, évidemment récupère ça. Mais j'ai envie de dire que c'est vieux comme la fiction. Dans la Bible, ça parle d'histoire de rois, de premiers ministres, de coups d'État, etc. Et sans parler de Shakespeare, ses premières pièces historiques. historiques. C'est des chroniques historiques de avec des personnages qui ont existé, des rois qui ont existé, des batailles, des luttes pour le pouvoir. Ça n'a rien de nouveau. Et même si effectivement c'est un petit peu rare dans le cinéma français qu'on préfère je sais pas, des histoires peut-être plus intimes ou je sais pas.
C'est très intime, quelqu'un qui dit qu'il n'arrive plus à penser.
Oui, mais non, mais il y a rien de plus intime d'une certaine manière qu'une pièce de Shakespeare, puisque c'est peut-être lui qui va le plus loin dans disons quand il sonde l'âme d'un personnage. On peut pas aller plus loin que ça, mais disons il y a un réservoir de personnages à mon avis passionnants dans le théâtre politique qui est à disposition et dont on se sert à mon sens relativement peu, voilà.
Et vous les avez regardés, par exemple, pour préparer Alice et le maire, ces films-là, qu'il s'agisse des documentaires d'Yves Jolland, qu'il s'agisse d'autres
alors,
films.
Je dirais pas ça comme ça, mais c'est-à-dire que c'est parce que je les ai vus que j'ai eu envie de faire Alice et le maire. C'est-à-dire que je me suis pas dit, tiens, je fais un film politique, donc j'ai révisé. Mais évidemment, Paris à tout prix, je l'avais vu à l'époque. Le président, je l'avais vu au cinéma.
Que ça appelle la fiction.
Mais oui, moi, ça me donne envie d'écrire des fictions, bien sûr. Ouais. Je suis assez peu porté sur le documentaire. Ça m'intéresse pas tellement d'en faire. Et d'ailleurs, ça m'intéresse pas beaucoup. Je regarde peu de documentaires, si ce n'est des documentaires politiques. Et d'ailleurs, je regarde des documentaires politiques et des reportages politiques aussi. C'est-à-dire que même quand la forme est très télévisuelle, qu'on sent que ça a été fait très rapidement, ça m'intéresse aussi. Donc j'ai vu beaucoup de reportages politiques. Enfin, les recherches que j'ai pu faire pour le film, c'est des nuits d'insomnie où je regardais la chaîne parlementaire à 2h du matin et où je tombais sur un maire dans la Creuse qui essayait de se faire réélire et je trouve que qu'il y a quelque chose d'intéressant, disons, dans la passion, dans la vocation politique. Il y a quelque chose qui en tout cas me parle beaucoup.
En tout cas, qui questionne, c'est aussi l'un des rouages de votre film Alice et le maire, c'est savoir à quoi ça tient. À quoi ça tient d'avoir cette vie-là qui est quand même très étrange, où, comme dit Fabrice Lucchini, ça ne s'arrête jamais, c'est le matin, le jour, la nuit, tout le temps, il n'y a pas de pause, il a 2 secondes le temps de discuter dans l'habitacle d'une voiture. Mais justement, Yves Jolland disait le tous pareil, tous pourris, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est irrecevable, et parce qu'ils ne sont pas tous pourris que je les filme. On sent qu'il y a ça aussi dans votre film, Nicolas Pariser, que ça vous satisfait pas trop, cette formule-là.
Bah, tous pareil, c'est tellement évident que c'est pas vrai qu'effectivement, il a raison.
C'est facile à évincer.
Voilà, mais... et tous pourris, bah, d'abord, je pense que effectivement, c'est pas vrai, qu'en plus, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire, effectivement, il vaut mieux pas être trop malhonnête quand on fait de la politique, mais disons le scénario du type j'avais plein d'illusions sur le monde politique et en fait je m'aperçois que c'est pas si rose. On pouvait peut-être faire ça en 1950, mais ça me semble tellement disons que moi je pars d'un moment déjà désenchanté. Je pars d'un moment où déjà disons le moment du tous pourri me semble avant moi. C'est-à-dire, il me semble que si les gens de ma génération ont quelque chose à faire, c'est de reconstruire quelque chose sur la base de ce tous pourris. Parce qu'effectivement, là, dans les pratiques politiques, dans les années 80-90, c'était quelque chose, je pense, qui paraîtrait aujourd'hui totalement fou, l'argent liquide, les marchés publics, etc. Je pense qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais de toute façon, si on parle en termes de cinéma, c'est un cliché, c'est-à-dire
c'est déjà has-been, il vous reste à filmer la nuance et la complexité.
Oui, c'est
quoi.
Ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois qu'il y a les films de Mocky ou de Chabrol des années 70 sur Claude Pieplu en député pourri, voilà, ça a été fait, c'est formidable, mais je vais pas le refaire pour la millième fois avec Fabrice Lucchini. Donc j'ai plutôt envie d'essayer de reconstruire une croyance, alors une croyance fragile, mais une croyance quand même, et une croyance en plus qui se fonderait sur le dialogue et sur les échanges d'idées. Oui.
Et pour ce faire, vous envoyez une sorte de petite souris, envoyée spéciale, ou Alice tout court, puisque cette jeune femme de 30 ans débarque un jour et on lui explique.
Isabelle Leinsdorf m'a chargée de te présenter le nouveau poste qui a été créé suite à la suppression de celui que tu devais occuper.
Ah, donc ils ont supprimé un poste et ils en ont créé immédiatement un autre.
Ouais. En termes d'économie et de rigueur budgétaire, c'est assez peu efficace, mais enfin bon, j'ai été témoin ici de choses beaucoup plus aberrantes que ça. Je crois qu'ils sont tellement mal d'avoir recruté quelqu'un après avoir supprimé le poste qu'ils en ont immédiatement créé un autre.
D'accord. Et je devrais faire quoi ?
Ton poste, c'est de travailler aux idées.
Aux idées ?
Oui, tu devras trouver des idées pour le maire. Alors, en dehors des discours, éditos, communiqués de presse, ça c'est nous. En fait, ton boulot, c'est de prendre du recul.
Mais c'est pas un travail.
Quoi ?
Prendre du recul. Enfin, prendre du recul, c'est pas un travail. Moi, je sais même pas par rapport à quoi je dois prendre du recul.
Bah, par rapport à l'action municipale quotidienne. Tu devras faire de la prospective sur le terrain des idées.
En fait, c'est une manière un peu alambiquée de dire qu'il faut que je fasse des fiches, non ?
Ah bah les idées vont prendre la forme de notes, oui.
Et quelle est la différence entre les notes et les fiches ?
Écoute, il me semble que les fiches, c'est plutôt pour la télé, ici on dit notes.
D'accord. Et qui va me donner les sujets des notes que je dois rédiger ?
Ah bah les sujets sont librement choisis par toi. Il y a bien des sujets que je trouve pertinents aujourd'hui, non ?
Bonjour, je ne fais que passer, hein. Le conseil municipal est dans un quart d'heure maintenant. Je vois que Mélinda vous a tout expliqué. Merci beaucoup, Alice. C'est très important, vous savez.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un instant. Laissez-moi voir, ma chère. Ce n'est sûrement pas un cœur. Pensez-vous que ce soit un carreau ?
Mais non, c'est une petite fille.
Oui, et j'espérais...
Levez la tête, parlez distinctement et ne tortillez pas vos doigts ! La pointe des pieds en dehors, faites la révérence, ouvrez la bouche, ouvrez la grande et répondez toujours... Oui, votre majesté !
Oui, votre majesté.
Maintenant, veuillez nous dire d'où vous venez et où vous allez.
J'essayais de trouver les moyens de rentrer chez moi.
Les moyens ? Sachez qu'ici, tous les moyens sont à moi.
Oui, oui, je l'ai entendu dire. Mais je croyais que je pouvais...
Faites la révérence au lieu de croire et sachez qu'une tête, ça se coupe.
Oh oui, votre majesté, je voulais demander seulement...
C'est moi qui pose les questions ici. Est-ce que vous savez jouer au croquet ?
Oh, oui, votre majesté.
C'est parfait !
Ouvrez la bouche grand et dites oui, Nicolas Pariseur. Évidemment, juste après un extrait de votre propre film, vous avez reconnu un extrait de Alice au Pays des Merveilles, dans sa version française, petite rencontre rigolote entre la toute jeune Alice et la reine. Parce que évidemment, on se dit que ce choix de prénom n'est pas anodin et que vous envoyez quelqu'un au pays des merveilles politiques.
Au pays des mers, déjà.
Au pays des mers. Au pays des mers, ouais.
En réalité, enfin, c'est drôle parce que on m'a déjà posé cette question, mais en fait, au départ, elle s'appelait Claire. Le personnage principal s'appelait Claire parce que c'était la lumière, etc. Et puis, je trouvais pas de titre à mon film. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, j'ai une idée, je vais appeler ça Claire et le maire. Et évidemment, Claire et le maire, c'était horrible. Et très naturellement, j'ai tout de suite trouvé Alice. Mais en fait, parce que je pense que comme il y avait mère dans le titre, et que je voulais un prénom et le maire, et je pense que là, il y a eu effectivement une espèce de télescopage, c'était Alice et le maire. Et donc, Alice était le deuxième prénom. Mais oui, sans doute qu'inconsciemment, il y a une, je sais pas si on peut faire une allusion inconsciente, mais enfin, disons, inconsciemment, il y a quelque chose qui a un rapport avec Alice au Pays des Merveilles.
Parce qu'une des choses parfaites, dans cette manière pour nous de voir, le monde de la mairie qu'elle pénètre, ce sont ses yeux, son étonnement, sa curiosité, le petit sourire d'intelligence et de distance dont je parlais en introduction, et aussi, sa manière d'être face à l'absurde, elle est que face à des trucs au départ qu'elle comprend pas, elle est ballottée d'un truc à un autre, on l'envoie dans un bureau de com, on lui dit monte dans cette voiture, on lui dit viens à cette soirée, enfin, c'est Alice au Pays des Merveilles, un peu.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, disons, comme Alice, c'est un peu une enfant. C'est-à-dire, elle a l'innocence de l'enfance au sens où elle n'a pas de cynisme. C'est-à-dire que pour moi, la scène qu'on a entendue avec Anaïs de Moustier et Nora Hamzaoui, son importance, c'est qu'effectivement, on lui dit des choses qui lui paraissent absurdes. C'est une intellectuelle, elle a fait 10 ans d'études de lettres, une prépa, etc. Donc évidemment, quand elle entend ce vocabulaire-là, ça la hérisse. Mais elle n'a pas de surplomb. C'est-à-dire,
et elle peut le dire aussi. Voilà, elle peut dire, en fait, donc les gars, vous venez de supprimer un poste pour en créer un autre.
Voilà, elle pose des questions. C'est-à-dire, elle n'a pas de surplomb, elle se dit pas c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et effectivement, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a une chose, c'est que les enfants sont très peu étonnés en réalité, et donc ils posent des questions. Et ils posent des questions comme ils connaissent pas grand-chose, ils sont jamais étonnés, et donc ils posent des questions vraiment. Mais qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Et effectivement, peut-être le principal point commun entre la Alice de mon film et la Alice du roman, c'est que elle voit des choses qu'elle ne comprend pas. Et au lieu de d'être étonnée, voilà, elle pose des questions. Et effectivement, j'ai dans le souvenir du film de Disney le souvenir d'une petite fille qui n'est pas si étonnée que ça, mais par contre qui veut savoir ce qui se passe. Et Alice est pareil, sauf que Alice, dans le cas d'Alice, mon projet en tout cas, c'était que ce soit une innocence d'après le cynisme. C'est-à-dire, il y a le moment de l'innocence de l'enfance, ok, il y a le moment où on a 16-17 ans, où on est révolté contre tout, on trouve tout nul, voilà. Et il y a un moment donné, pour moi, disons de basculement, où on rentre enfin dans l'âge adulte, à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, je sais pas l'âge qu'on veut, où le sentiment de révolte devient peut-être secondaire et on essaie de reconstruire une sorte de d'innocence du regard, mais avec, disons, l'expérience de ce qu'il y a avant. Et l'innocence d'Anaïs de Moustier dans le film, son regard, effectivement, je filme beaucoup son visage et beaucoup d'expressions d'Anaïs qui est témoin de choses plus ou moins aberrantes. C'est un peu une innocence forcée, mais une innocence qui, pour moi, a une forme de bonne conduite. C'est-à-dire, la conduite à avoir dans la vie, c'est pas d'avoir un surplomb sur tout ce qui se passe, c'est pas de faire tout le temps, c'est d'essayer simplement de comprendre pourquoi c'est comme ça.
Mais c'est aussi parce que c'est son seul outil. Il y a aussi l'idée que ces rouages de la communication politique, de l'emploi du temps extrêmement serré d'une mairie de grande ville française, de un fonctionnement de partis historiques, mais aussi de la télévision, mais aussi des réseaux sociaux, etc., etc., est un rouage tellement bien huilé qu'il faut bien trouver une manière, un grain de sable pour qu'il s'arrête. Pour qu'il prenne juste 2 secondes pour se penser lui-même. Et ça fait de son innocence et de ses questions une action politique opérante, en fait.
Oui, mais parce que justement, le fait de ne pas... Le problème du surplomb, c'est qu'on s'exclut, en fait, du fonctionnement des choses. Et c'est, d'ailleurs, c'est le piège de l'intellectuel, mais de l'intellectuel au sens très très large. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en France, tout le monde est un intellectuel à partir du moment où il trouve que le voisin est moins intelligent que lui. Donc, il y a cette idée que je voulais pas qu'elle trouve les gens à la mairie bête et que ça aboutisse au fait qu'elle s'extrait de la vie. Et là, le moyen qu'elle trouve, justement, d'être le petit grain de sable qui va mettre un peu tous ces fonctionnements-là en difficulté, c'est que au lieu d'avoir du surplomb et d'écrire un article ou un livre assassin du genre mon expérience à la mairie de Lyon, voilà, elle joue le jeu.
Mais elle est touchée. Elle joue le jeu aussi parce qu'elle est touchée.
Vous voulez dire elle est touchée, ça l'intéresse.
Bah oui, mais elle est aussi touchée par le Kini. Elle est intriguée par le Kini, par le maire.
Oui, mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'elle se met dans cet état de disponibilité qu'elle est touchée par le Kini. Parce que le nombre d'intellectuels qui ne seraient pas touchés par le Kini, qui au départ le trouveraient lamentable, dépassé, idiot, etc., etc., il est énorme. Effectivement, elle se met dans cet état de disponibilité dans la mairie. Et à un moment donné, puisqu'elle est dans cet état d'innocence, dans cet état de disponibilité, elle est même bouleversée par le maire.
Vous étiez à quelle étape de montage ou, je sais pas, de production quand Emmanuel Macron a invité tous les intellectuels qu'il a invités à l'Élysée, Nicolas Parizeau?
Je pense que j'étais en montage. C'est pas la première fois que j'écris un film politique. À chaque fois, j'ai un peu peur que avant la fin de la fabrication,
il soit déjà dépassé.
Mais en réalité, c'est plutôt un encouragement. C'est-à-dire que quand il y a un écho sur ce que j'écris ou ce que je filme dans la vie réelle, je me dis j'étais pas trop à côté de la plaque. Et puis comme l'actualité va tellement vite, c'est oublié presque immédiatement. Alors que on a encore la chance dans le cinéma ou la littérature où ça va quand même un peu moins vite. C'est-à-dire déjà on met plus longtemps à faire un film, ensuite il sort, ensuite il va repasser à la télé, enfin ensuite on fait le suivant, donc on parle de celui d'avant. On a encore la chance, disons dans le domaine culturel, d'avoir une temporalité qui est tout ne se jette pas au bout de deux semaines, contrairement à la politique. Donc mais moi je suis toujours content, oui, quand j'ai l'impression que la vie imite la fiction. Ouais.
Vous avez écrit le personnage ou les deux personnages principaux, avec quel souci, puisque vous parlez de rythme, Nicolas Pariser, des dialogues, je vous le disais juste avant qu'on commence l'émission, en regardant le film, la deuxième fois, j'ai plusieurs fois écouté le film, et en me disant, tiens, ça marcherait sur France Culture en fiction. Je vous donne un petit tuyau si vous n'avez rien à faire. Vous pouvez proposer une fiction politique. Il y a quelque chose comme ça qui fonctionne tellement, ça tient tellement sur la parole, il y a tellement de choses qui se disent et qui se disent à propos du fait de dire que ça marche. Ça veut dire qu'il y a un enjeu d'écriture qui, par conséquent, est très fort.
Ah bah ça c'est sûr que en tout cas les dialogues, je me rends bien compte que les dialogues dans le processus qui amène disons le film fini, c'est un moment très important, mais disons j'y suis encouragé par plein de cinéastes que j'adore, dont le but c'est pas qu'à la fin ce soit des beaux dialogues, le but c'est d'écrire de bons dialogues pour ensuite partir de là pour faire le film. C'est pas le point d'arrivée, c'est pas comme dans un livre ou un dialogue philosophique, mais disons ça me permet d'abord d'être vraiment très précis dans ce que j'ai envie qu'il soit échangé entre les personnages. Ça me permet aussi d'avoir un ton qui n'est pas le ton de beaucoup de films français que d'ailleurs j'aime beaucoup, hein, mais qui est disons un ton spontané, naturel, fait de beaucoup d'hésitations, de balbutiements. Moi j'aime bien le côté un peu ligne claire, voilà, les gens disent le texte de manière intelligible et ils n'hésitent pas trop, tout
c'est
ça.
C'est littéraire et précis quand même.
Oui, voilà.
Ce qui s'échange.
Disons que je viens d'un moment, disons quand j'ai commencé à vouloir faire des films, le cinéma français, disons une des figures écrasantes, c'était Piala bien sûr, mais aussi Claire Denis qui est une cinéaste vraiment importante, et où ce qui est vraiment important dans son cinéma, c'est le corps, les tripes, la peau, donc des affects très je dirais des affects primaires, mais pas du tout dans un sens mauvais du terme, mais disons c'est
pas le verbe, quoi.
Voilà, l'enjeu esthétique de ce cinéma là c'était celui-là, et ça a eu une influence gigantesque dans le cinéma français, jusque par exemple dans un film auquel on compare souvent Alice Elmer, qui est L'exercice de l'État de Pierre Scholler. Pierre Scholler, bon, c'est pas un film sur le fonctionnement de l'État, c'est un film sur que fait le métier de ministre au corps d'un homme. C'est quoi un corps soumis au travail du politique. Donc voilà, moi j'ai commencé à faire des films à ce moment-là, et donc j'ai voulu partir dans une autre direction, parce que cette direction-là avait, en tout cas il me semblait qu'elle avait été explorée brillamment, et que donc il y avait pas plus grand-chose à en dire aujourd'hui. Et donc je suis parti en sens inverse, dans quelque chose de beaucoup plus articulé. Enfin, en tout cas, mon ambition était de faire un récit plus articulé, des dialogues plus précis, un découpage plus classique où disons, je m'intéressais encore beaucoup à la question du cadre, du découpage, de la longueur des plans, de la vitesse des panoramiques. Enfin, quelque chose qui disons qu'avant, le cinéma des années 90 et 2000 était beaucoup dans le flux. Donc ça parlait souvent aussi beaucoup de corps, de drogue, enfin de choses comme ça. Et moi, j'ai voulu un peu à mon échelle faire une cure de désintoxication du cinéma, de le dessouler un petit peu et de voir ce que ça donnait si les gens en fait échangeaient vraiment et si leur, qu'est-ce que ça donnait si la parole était possible, le dialogue possible, et si les gens étaient capables d'exprimer des idées, d'exprimer même assez précisément ce qu'ils ressentaient. Parce que il me semblait, et ça c'est Romer qui à mon avis l'a prouvé, c'est que en fait, quand on échange de manière intelligible des idées, des affects, en étant très conscient de soi-même, en réalité, on ne dit pas la vérité. Et en réalité, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est que le dialogue, la parole, n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est une action. Et même quand on est très précis sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on pense, ça peut provoquer un trouble. Alors qu'il n'est pas le même trouble que dans un film de Claire Denis je sais pas, ou dans un film de Jarmusch, de gens comme ça, mais un trouble effectivement plus romérien et qui moi à ce moment-là, disons du cinéma à ce moment-là de m'intéresser davantage. Voilà.
C'est marrant parce que vous parlez du cinéma français, puis tout à l'heure vous m'avez aussi, ramené à cette idée du français. À la fin du film, je me suis dit tiens, film très français.
Oui.
Et pourquoi alors? Je me suis dit ça, c'est bizarre. Parce que j'avoue que c'est pas un truc que je me dis très souvent. Là, je me suis dit, mais pas très français comme étant on parle des films français, par oui, exemple, oui, pour en rigoler. Là, je me suis dit, ah, c'est marrant, c'est français.
Bah, disons que j'ai une. Je viens vraiment de la cinéphilie un peu. Enfin, vraiment, je dirais, entre, disons, les quais du cinéma, la cinémathèque. La question du cinéma français m'intéresse énormément. Pour moi,
comme un objet auquel on réfléchit,
oui,
auquel on réagit,
voilà, c'est-à-dire c'est comme,
avec,
je sais pas, c'est comme la peinture flamande. C'est un truc qui existe, le cinéma français. Et d'ailleurs, il y a pas beaucoup de, le cinéma américain existe, le cinéma italien existe, le cinéma japonais existe, mais il y a pas 10 000 cinémas. Donc le cinéma français comme objet m'intéresse énormément et je m'y inscris complètement. Et j'aime le cinéma français. J'aime le cinéma italien, j'aime le cinéma américain, mais presque comme trois corpus. Alors qu'évidemment, il y a des liens entre tous ces cinémas-là. On vit à une époque où il y a le téléphone et où il y a Internet, mais on voit les films des uns et des autres. Mais ça m'intéresse d'envisager le cinéma français comme quelque chose qui serait cinéma français. Et même s'il y a des cinéastes étrangers que j'adore. Nanni Moretti ou des gens comme ça qui peuvent avoir une influence sur le film. Je pense que avant tout, j'essaye d'inscrire mon travail dans une histoire française. Alors avec avant-guerre, Pagnol, Guitry, Jean Eustache, Éric Rohmer, Claude Chabrol. Ce qui je crois nourrit le plus mon travail, c'est vraiment ma passion pour des cinéastes français. Après, j'adore Mizoguchi, j'adore Hawks, j'adore Lang, mais je pense que ça nourrit beaucoup moins mon travail.
Ce qui nourrit une partie du travail d'Alice dans Alice et le maire, ce sont les livres.
L'idée que la littérature ou l'art, qui est une vieille idée, hein, va consoler, va soigner, va penser, va réparer, ça c'est de plus en plus présent. Ben, au fur et à mesure que le monde se casse la gueule et que nous-mêmes, nous sommes de plus en plus perturbés, déstabilisés, inquiets, angoissés, stressés, évidemment, en dehors des livres de développement personnel ou d'aide à la personne, hein, ou de coaching mental, la littérature est vue comme une aide aussi personnelle, privée, pour se sentir mieux, voilà, aller mieux. Là aussi, ça suffit pas. Je dis pas que ça peut pas servir à ça aussi. C'est pas voilà, plus il y en a, plus il y a d'usage de la littérature et de l'art, mieux c'est à la limite. Mais il me semble que faut pas s'arrêter là, faut pas poser des barrières, des cadres, des au-delà de laquelle la littérature ne serait plus elle-même, on la trahirait, je sais pas quoi. Trahissons la littérature, trahissons-la pour qu'enfin ça vive. Ça vive, parce que là, l'enfermement dans une forme de méditation contemplative, consolative, tue la littérature aussi. Cette idée que la littérature peut se trahir, peut nous être d'un grand service quotidiennement et pour ce qu'on a à faire de très direct et de très concret dans la vie et de très politique aussi, est en train de passer. Ça, c'est un message qui est vraiment en train de passer. Alors, je le sens bouger fortement depuis, on va dire, je sais pas, quelques années, 2-3 ans, peut-être un peu plus. Ça bouge, ça change. Arrêtez de penser la littérature comme un enclos protégé, qui nous protégerait de quoi? Là, il n'y a plus personne qui est protégé, là. Enfin, si, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui se protègent plus que jamais. Oui, eux, ils peuvent continuer à lire Proust comme ça. Pas nous.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Nicolas Parisère.
C'est un message qui est en train de passer, disait à l'instant Nathalie Quintane dans Starship de 2018. Elle était venue à parler temps qui court, justement parler de la manière dont la littérature peut être un vecteur d'action et non un vecteur d'un certain repli communautaire, on peut considérer. Il y a toujours des livres sur la table quand Alice travaille dans votre film, Nicolas Parisère. Elle glisse toujours un livre dans son fameux sac de cuir lorsqu'elle va sauter dans un taxi ou se dépêcher d'aller au prochain rendez-vous. Elle offre des livres dans des jolies pochettes de papier à Fabrice Lucchini qui interprète le maire. Donc c'est là aussi des véhicules. Vous parliez de véhicules en début d'entretien. On sent bien que vous avez envie qu'ils soient présents. On ne sait pas exactement à quel point vous nous dites qu'ils sont actifs, mais en tout cas, ils sont là.
Ben, c'est vrai que j'adore filmer les livres, et déjà dans mon premier film, je voulais qu'il y ait une scène, enfin que le film presque commence dans une très grande librairie. Et je saurais pas vous dire exactement pourquoi j'ai envie qu'il y ait plein de livres dans mes films, mais disons que comme c'est quelque chose qui est important dans ma vie, que j'en achète beaucoup, que je vais au moins 3 fois par semaine dans une librairie. Pour moi, c'est un objet vraiment extrêmement familier, et probablement qu'il y a quelque chose qui me rassure dans le fait de montrer des livres dans mes films. Après, pour rebondir un petit peu sur l'archive, moi, j'ai quand même l'impression que les gens qui lisent ou qui aiment les livres, c'est rarement une thérapie pour aller bien. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui pensent qu'on va aller mieux personnellement.
Alors détrompez-vous, si je peux me permettre. Nathalie Quintane ne parlait pas au hasard, et je pense qu'elle faisait complètement référence à un discours ambiant qui a trait avec une sorte de développement personnel, et qu'on pourrait aller pour son bien, pour se faire du bien, pour faire du cocooning, comme pour faire du yoga, à la librairie, acheter un petit livre inoffensif qui va nous faire comme une couette chaude.
Disons que
c'est hyper répandu.
Oui, c'est un discours qui est hyper répandu, mais dans les faits, mes amis qui lisent beaucoup, c'est plutôt des gens d'abord qui vont pas très bien, et c'est pas du tout un défaut dans ma bouche, mais c'est des gens qui vont pas très bien et qui vont d'une certaine manière encore plus mal en lisant. C'est-à-dire que moi, par exemple, vraiment le livre qui a été le plus grand, l'œuvre d'art la plus importante pour moi, ça a été la lecture du Père Goriot quand j'avais 18 ans. D'une certaine manière, ça a gâché ma vie. C'est-à-dire que j'étais parti pour être étudiant en droit. J'aimais bien le cinéma, mais sans plus. Et c'est comme si le monde s'était brisé devant moi. Et y avait une fissure. Il y avait plus de monde. Il y avait une fissure. Et il s'agissait de reconstruire quelque chose.
Donc ça a tout sauf gâché votre vie, en fait. Ça a fait la fissure nécessaire à ce que votre vie puisse advenir.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, effectivement, il y a un problème avec la notion de bonheur, et qu'à un moment donné, construire sa vie et mener une vie disons décente, libre, enfin on peut utiliser tout ce qu'on veut, c'est pas forcément et même probablement surtout pas la recherche du bonheur. Enfin, si on veut être heureux, il faut à mon avis surtout pas lire. Faut pas lire Nabokov, faut pas lire Proust, faut pas lire Musil, faut pas lire de livres d'histoire par exemple non plus. Enfin,
d'ailleurs, il voilà. Y a un des personnages qui est une femme qui réalise les décors d'un opéra auquel vont assister Alice, le maire pas très longtemps mais une partie des gens autour de la mairie, une femme comète dont on apprend plus tard qu'elle est internée et que peut-être c'est sa lucidité qui est difficile à supporter.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que moi, l'art et en particulier la littérature nous donne probablement accès à une vérité plus grande et que cette vérité, elle est extraordinairement destructrice à titre personnel. Donc moi j'ai plutôt l'impression, et d'ailleurs dans mon film, à un moment donné, je pense que le maire, quand il n'arrive plus à penser, il est comme plein d'hommes politiques, c'est-à-dire il a une forme de... Enfin, les hommes politiques sont plutôt optimistes. Il y a quand même cette idée que ça va aller, que la croissance va revenir.
Mais ça finit par lui manquer, puisque c'est l'argument de votre film.
Eh bien sûr, mais c'est à un moment donné, c'est que avec les livres, il va aller encore plus mal, mais ce encore plus mal fait qu'il va se retrouver, ou en tout cas qu'il va s'élever moralement. C'est-à-dire qu'un homme politique optimiste, on va y arriver, on va lutter contre le chômage, etc. Une des raisons pour lesquelles, à mon sens, il échoue, c'est qu'il est dans l'erreur. Et qu'il passe à côté d'une forme de tragique de l'existence et de l'histoire. Et je pense que Alice, en faisant lire des livres au maire, en tout cas en lui en parlant, et en ayant un discours qui n'est pas le discours de la communication ou le discours simplement économique ou simplement un discours qui décrirait comment va sa vie, etc. Mais disons en inscrivant ce qu'elle lui dit dans une grande tradition littéraire, philosophique, artistique, en fait, elle lui fout la vie en l'air. Mais sauf que comme il avait une vie qui était vide, il a en tout cas accès à une vie plus digne, mais il est certain, et à mon avis, quand on voit la fin du film, il n'y a pas tellement d'ambiguïté, enfin, à la fin du film, il est probablement plus... Il voit plus les choses, mais il est certainement pas plus heureux.
Franchement, ça mériterait discussion, parce que dans la manière dont vous filmez Fabrice Luchini pendant tout le film, c'est-à-dire en train de se réveiller... en train de passer des coups de fil à 3h du matin en disant à Alice, vous sauvez mes journées, et c'est tout sauf une formule.
C'est vraiment vrai.
Un homme en train de se réveiller dans les derniers plans du film. Il est chez lui, on va pas raconter tout, mais il a l'air... Mais vous filmez son visage retrouvé,
c'est vrai.
Apaisé, oui, oui. Tranquille, enfin...
Je suis d'accord, il est apaisé,
il
est réveillé.
Il a moins de rides, oui, il a un plus joli pull.
Je suis d'accord.
Son appart, il est plus sympa. Tout va mieux, quoi.
Il est certainement réveillé. Je pense que le terme est bien choisi. Il est réveillé. Après, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont jamais plus heureux que quand ils dorment. Ils adorent dormir, ils adorent être dans des états seconds, etc. Donc,
mais ça n'est pas votre hypothèse.
Ça n'est pas mon hypothèse. Voilà. Dans mon idée, ça se termine bien, mais ça se termine bien. Le film se termine bien parce que quelqu'un s'est réveillé. C'est pas quelqu'un et en accord avec son chakra. Enfin, je dis chakra, je sais pas ce que ça veut dire exactement.
Bon, il est peut-être par ailleurs en accord avec son chakra, d'ailleurs.
Peut-être.
Et ce serait vraiment un supplément de bonheur à ce film-là, Alice et le maire Nicolas Parisard. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas moins seuls à la fin du film. Et même si Alice, dans un petit bout de conversation, dévoile que, en fait, finalement, elle a un amoureux, ou en tout cas, qu'il y a eu un homme dans l'histoire, qu'elle a eu une fille, ce sont vraiment deux êtres extrêmement solitaires que vous filmez. Et des êtres qui savent pas très bien comment en sortir, donc on peut faire aussi l'hypothèse qu'ils ont pas très envie d'en sortir de cette solitude-là, que c'est un endroit pour eux, un endroit de l'action politique, un endroit pour ceux qui pensent, un endroit pour ceux qui lisent, en tout cas un endroit que vous filmez, Nicolas Parisard, la solitude.
Oui, ils sont seuls, mais je pense qu'ils sont seuls parce que, ça fait partie de leur être, en fait, d'être comme ça. Et ça m'intéressait de filmer deux personnes qui se reconnaissent. Et peut-être même qu'il y a une forme d'élection, en fait, dans le fait de pouvoir être seul et de pouvoir bien vivre ou en tout cas de vivre la solitude de manière heureuse, en tout cas positive. Et pour moi, peut-être ce qui fonde vraiment leur relation, c'est qu'à un moment donné, ils se reconnaissent comme ça. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont trouver le bonheur en étant entourés, c'est pas les gens qui vont vouloir prendre encore un autre verre à 2h du matin pour rencontrer encore d'autres personnes. C'est des gens qui dans mon esprit, quand ils rentrent chez eux, ils sont contents d'être tout seuls et d'aller se coucher, ou en tout cas, dans le cas d'Alice, de lire un livre ou d'écouter un disque. Mais c'est le contraire de fêtard ou de... J'ai l'impression que le film devient complètement sinistre là, mais disons voilà, c'est
non, pas
c'est...
du tout, parce qu'il y a quelque chose qui les lie.
Mais voilà,
ils sont extrêmement curieux, voilà,
ils se reconnaissent comme deux personnes qui ont comme connu une élection, voilà, qui est voilà, vous êtes des personnes seules, et peut-être même que c'est la ce qui les définit le plus.
Et d'ailleurs, vous évincez d'un petit bout de dialogue la piste amoureuse. Elle vous a tenté à un moment donné?
Entre deux?
Ouais.
Non, enfin, elle m'a tenté. Disons que tout de suite, j'ai relu un peu hier les premières lignes que j'ai écrites, les premières notes. Je crois que c'est la troisième ligne, c'est il se passera rien entre eux. C'était vraiment un point de départ sur le film qui aurait
pas rien, mais un discours.
Ben oui, rien, sauf que, enfin, ils s'aiment, hein, mais il se passera rien, disons, de charnel ou de passionnel ou d'amour ou de, disons, de d'amoureux au sens, disons, traditionnel ou étroit du terme.
On n'a pas trop de temps, on y va. Le troisième paragraphe, vous pouvez me le relire.
Alors, il ne suffit pas de dire que nous allons lutter contre le monde de la finance comme si ce monde était une armée abstraite, sans soldats, sans division. Cette armée est concrète. Et de quoi? De qui est-elle faite? Par exemple, ici en France. La réponse est simple. Simple mais terrible. Le monde de la finance, ce sont nos enfants. Oui, les enfants de la République. Je vais même aller plus loin. Ce sont nos meilleurs élèves. Ceux-là même que notre école républicaine a révélés, accompagnés, instruits, élevés jusqu'à l'excellence.
C'est quand même un peu violent, non?
Non, je crois pas. Vous aimiez bien avant-hier.
Allez-y, continuez.
Ceux que l'on appelait encore autrefois, un peu naïvement, l'élite de la République. Ils étaient hier scientifiques, ingénieurs, professeurs, médecins, architectes, généraux. Aujourd'hui, ils se pressent, dès leur vingtaine, aux portes des plus grandes banques et des plus grandes entreprises financières. Mes amis, mes camarades, qu'avons-nous fait de nos enfants?
C'est quand même violent.
Qu'avons-nous fait de nos enfants, des plus brillants d'entre eux, de ceux qui auraient dû mener notre pays vers le progrès social, vers une solidarité plus profonde et plus efficace? Pour reprendre la célèbre phrase de Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air?
Non, pour paraphraser Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air, c'est beaucoup moins lourd.
Alors, pour paraphraser Mario Vargas Llosa, à quel moment la France s'est-elle foutue en l'air?
Ça déménage, hein, quand même. Continue.
À quel moment son école a-t-elle retourné la République contre elle-même? À quel moment a-t-elle fabriqué ce nouvel individu sans attachement national, sans sentiment de solidarité avec son prochain? Quand a-t-elle enfanté ce citoyen du monde qui part travailler dans toutes les cities, tous les Wall Street du monde et qui paye de moins en moins ses impôts en France? Voilà, on en est là.
C'est bon, hein. C'est vraiment très très bon. Il y a une répétition de monde, mais je pense que ça va passer. Donnez-moi vos notes. Maintenant, je vais vous dicter. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me le dites. On reprend, d'accord? C'est à la République de répondre.
C'est à la République de contre-attaquer, non?
C'est à la République de contre-attaquer. Oui. Non? C'est à la République de faire sa révolution.
Non, ça ne veut pas dire grand-chose. La République a déjà fait sa révolution.
Non, non, non. La France a fait sa révolution, mais maintenant, on est en République.
Donc il se passe ça, peut-être entre eux, entre Fabrice Lucchini, le maire, et Anaïs de Moustier, Alice. Bon, j'apprécierais que nous ne disions pas grand-chose de la suite d'un point de vue de l'action de votre film, Nicolas Parizère, mais parler de ce moment-là est un moment important. Ils font peut-être pas l'amour, mais ils écrivent ce discours-là quand même, tous les deux.
Oui, en tout cas, j'avais conscience quand j'écrivais le scénario que leur relation devait déboucher sur quelque chose, et que un discours, ça me plaisait parce que c'est un objet littéraire. Enfin, et comment montrer que c'est un objet littéraire? Ben, je voulais les montrer en train de choisir les mots. Voilà, c'est une scène. En fait, il y a une scène dans un film de Jane Campion qui s'appelle Un ange à ma table, qui m'avait beaucoup frappé. Et c'était donc une écrivaine qui qui quand elle est enfant ou adolescente comprend qu'elle a cette vocation et donc écrit un texte et se met à vouloir choisir les bons mots alors que je sais pas, elle a peut-être 12 ou 13 ans et c'est une scène qui m'avait énormément marqué et je me suis dit j'ai envie moi aussi à un moment donné de montrer des gens qui écrivent et écrire c'est quoi, c'est choisir le bon mot, travailler à la bonne formulation, etc. Et les voir tous les deux créer un texte en essayant tous les deux par le dialogue de rendre ce texte le plus expressif, le plus clair possible, ça me semblait être, disons, une scène d'amour originale et qui... Alors, c'est pas du tout la dernière scène du film, mais enfin, disons, ça pouvait être le sommet de leur relation et que ça pouvait être une belle scène. Voilà.
Par ailleurs, c'est un moment où en fait elle le prononce ce discours, oui. elle le dit, donc peut-être elle a la puissance politique, la parole de la puissance politique, cette jeune femme de 30 ans que vous vouliez filmer, Nicolas Pariser, et puis c'est l'occasion pour vous de prononcer un discours, vous disiez que vous avez fait un film après Le Cynisme, là vous prononcez un discours après François Hollande, et le discours sur la finance.
Ce que je me disais avec... À propos du discours de François Hollande, c'est que la manière dont il prenait le problème, c'est-à-dire notre ennemi, c'est le monde de la finance, ça me paraissait...
Séducteur, mais pas concret.
Ça me paraissait pas être la bonne question dans la mesure où moi, en tant que jeune homme il y a 20 ans, ou il y a même un peu plus longtemps que ça, 25 ans, tous mes amis qui étaient brillants à l'école et dans les études se retrouvaient à travailler dans la finance, quand bien même ils avaient des parents de gauche, profs. Donc j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de... Enfin, que la finance recrutait à peu près beaucoup de gens qui avaient été bons à l'école. Et je me disais, si Hollande ne dit pas ça...
L'échec de l'école de la République.
Oui. En fait, il ne dit rien parce que si quand il dit mon ennemi n'a pas de visage, en fait, il a le visage du premier de la classe. Enfin, ou voilà, et qu'à un moment donné, se dire pourquoi est-ce que les premiers de la classe qui auraient pu faire, je sais pas, tous réfléchir à rendre, enfin, à ce que la sécurité sociale soit mieux organisée ou à les former au sein de l'État à défendre plein d'acquis sociaux, à expliquer pourquoi on peut quand même continuer à payer correctement les chômeurs, pourquoi on peut continuer quand même à conserver un système protecteur dans la mesure où le monde est de plus en plus violent. Pourquoi est-ce que les meilleurs de la classe n'ont pas fait ce travail-là, mais sont allés travailler à Londres pour fabriquer de l'argent par milliard tous les ans. Voilà, les gens qui travaillent dans la finance, ils ont pas sans visage. Moi, je peux les montrer sur ma photo de classe de terminale.
Merci beaucoup. On attend la photo de classe par la poste. Donc Nicolas Pariser, Alice et le maire est en salle mercredi prochain. Merci.
Merci d'être venus nombreux.
À la prise de son ce soir, c'était Éric Boisset. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain Debecq-de-Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riandet. C'est aussi la page de Par les temps qui courent sur franceculture.fr et le podcast via l'appli de Radio France. France Culture, tout bientôt 22h et le journal. Belle soirée.
Historiquement dominante de l'Europe, le christianisme est en plein effondrement. compte que c'est la fin de l'histoire, que Marx a perdu, et que le régime est le moins pire du monde.